Et rouler avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Les journalistes policiers, marchands de calomnie, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas, ont vomi leur eau forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fierta à lui servir d'escorte.
Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte,
ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu
que la commune n'est pas morte.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend donc pour son émission bimensuelle. Et ce soir, on va essayer de vous parler d'un livre qui s'intitule, un livre de Christine Ross, qui s'intitule Rimbaud, la commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale. C'est édité chez les Prairies Ordinaires. Donc une fausse édition d'édition indépendante, qui est en réalité une collection, et d'un plus gros éditeur, je remarque ça, là tout de suite. Désolé. Voilà, donc en termes de musique, José a encore fait la sélection musicale. Après notre petit jingle, vous avez pu entendre un morceau de Negative Land, qui est un groupe expérimental américain des années 90-80. Ils sont toujours là, ils existent encore. Ils sont souvent assez drôles, si on aime bien la musique expérimentale. Enfin, moi, ça me fait marrer. C'est un morceau donc, de Negative Land intitulé Over the Hiccups, donc par-delà le hockey. Mais c'était une espèce de reprise de Over the Rainbow que José propose de traduire par par-delà Rimbaud. Voilà, bon, c'est José. Et ensuite, pour faire la synthèse, puisqu'on avait Rimbaud, ou Rainbow, donc l'arc-en-ciel, vous avez pu entendre un morceau très célèbre interprété par Francesca Solville, Elle n'est pas morte, donc tiré de l'album La Commune en chantant. Voilà, alors Jean-Mathias, Christine Ross, Rimbaud, la commune de Paris, l'invention de l'histoire spatiale aux éditions, enfin non, dans la collection des Prairies Ordinaires. Qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce qu'elle politise Rimbaud? Est-ce qu'elle politise la commune? Est-ce qu'elle en sort quelque chose d'un peu concret?
Alors, un petit peu des deux. En fait, là, ce soir, moi, je vais m'y voir un exercice un peu difficile parce que, bon, nous, notre truc dans cette émission, c'est pas la poésie ou la critique littéraire a priori. Or là, on a un texte de Christine Ross qui est très dans la théorie littéraire et même dans la théorie parfois un peu acrobatique, hein, si je puis dire. Alors, on en avait parlé un petit peu là, si les auditeurs s'en souviennent de Christine Ross.
Sur 68. Ben,
exactement, sur mai 68 et ses vies ultérieures. On en a parlé en début d'année, il y a un an à peu près, un an ou peut-être un peu plus. C'est un livre donc de Christine Ross qui est plus récent que celui dont je vais vous parler ce soir, qui, à mon avis, sent bon la thèse réécrite ou le mémoire universitaire un petit peu customisé. C'est-à-dire que donc c'est un texte consacré à Rimbaud et la Commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale. Bon. Alors pour le dire vite et tout de suite, hein, ça jargonne pas mal dans ce livre-là. C'est très, c'est parfois un peu verbeux et en même temps, le sujet est intéressant. Il est même assez passionnant et il y a des analyses qui sont très stimulantes là-dedans. Alors mon avis, c'est que il y a un côté un peu début de carrière universitaire, donc avec les vices qui vont avec, c'est-à-dire très théorisant, très jargonnant, etc. Après, il y a des choses très stimulantes sur Rimbaud et sur la commune. Bon, alors tu demandais si effectivement est-ce qu'elle politise Rimbaud, est-ce qu'elle poétise la commune. On peut le dire comme ça, mais en même temps, il faut bien dire que alors les rapports entre Rimbaud et la commune, ils sont connus et en même temps pas si connus que ça. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un des rares poètes ou un des rares héros de la littérature française de l'époque qui a pris en fait fait et cause pour la commune, contrairement à la quasi-totalité de tous les romanciers et poètes de l'époque. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, finalement, on ne sait pas beaucoup plus. Alors, il y a quelques textes de Rimbaud, j'en lirai là quelques-uns ce soir, parce que, bon, ça, il gagne à être lu et relu quand même. Donc, il y a quelques textes de Rimbaud qui font allusion à la commune, et encore de manière très, très allégorique, très métaphorique, vous allez le voir.
Très distancié.
Très distancié. Et il n'y a pas de présence physique de Rimbaud avérée au moment des événements de la commune. Alors, on sait qu'il a fait plusieurs séjours à Paris un petit peu avant, un petit peu après. Donc les rapports de Rimbaud à la commune sont quand même, bon, on sait qu'il en est, pour reprendre la formule de la chanson, mais finalement il y a pas tant que ça de travaux là-dessus.
Oui. Mais il n'était pas comme Courbet, élu de la Commune de Paris.
Alors, c'est pas un acteur de la Commune de Paris, un acteur politique, hein, effectivement comme Courbet. Et puis quelques autres, mais pas tant que ça finalement. Donc voilà, tout ce qui est à mon avis
Valès
bien sûr, ouais. Mais tout ce qui tend à préciser un petit peu ou à analyser les rapports entre la poésie de Rimbaud et puis la Commune de Paris, je trouve que ça mérite attention de ce point de vue-là. Dans l'introduction, elle explique un petit peu le contexte dans lequel elle a produit cette étude-là. Donc c'est le milieu des années 80 et elle dit qu'en fait à l'époque, donc elle est à l'université et qu'en fait elle en peut plus en fait de la critique littéraire de l'époque qui est très post années 70 quoi. Donc
structuraliste
post-structuraliste, déconstructiviste. Alors on est dans vraiment l'importation des théories françaises aux États-Unis et dans les départements de littérature, c'est-à-dire que on étudie le texte et rien que le texte.
Il n'y a pas de contexte.
Il n'y a pas de réalité, il n'y a que du texte. Et puis texte, la réalité du texte, c'est la feuille et les lettres sur lesquelles, qui sont écrites dessus. Et donc elle dit qu'elle n'en peut plus de cette sophistication-là. Alors le poète de référence pour les études de littérature française aux États-Unis à l'époque, c'est Mallarmé, qui voilà, parce que Mallarmé justement c'est le texte pour lui-même, la forme pour elle-même, la littérature pour elle-même. Surtout ne parlons de rien, et surtout ne parlons de rien d'extérieur au poème, puisque de toute façon il n'y a rien digne d'intérêt en dehors du poème lui-même. Et donc bon, la démarche, alors c'est un peu ambitieux. Est-ce qu'elle tient vraiment ces promesses-là? Je suis pas sûr toujours, mais son idée c'est en fait d'essayer de montrer que si on s'intéresse à Rimbaud, en fait, on peut pas avoir une approche comme ça sophistiquée, élitiste et uniquement spéculative en fait de la poésie, et que Rimbaud en fait invite forcément lorsqu'on lit ses textes à penser la réalité dans laquelle il vit, la réalité sociale, politique.
C'est un peu une banalité, ça.
C'est une banalité, en même temps.
Parce qu'un auteur, il parle de quelque chose, sauf Mallarmé.
Sauf Mallarmé, oui.
Mais la plupart des auteurs parlent de quelque chose. Donc,
Balzac. Bien sûr. Alors, ce que je pense, c'est que son
idée. C'est la réalité du 19e siècle.
Bien sûr. Après, ce que je pense, c'est que son idée, c'est d'essayer d'avoir une espèce de contre-figure, quoi, si tu veux. Tu vois, il y a Mallarmé qui est un peu l'espèce de héros de la poésie formaliste et de la poésie qui parle uniquement d'elle-même. Et son idée, c'est d'essayer de construire quelque chose comme une espèce de contre-figure. Donc, avec Rimbaud, on rentre, dans la poésie du réel, en quelque sorte. Et par l'écriture.
On y revient,
parce que finalement on n'en sort jamais, mais au moins que Rimbaud permettrait ça. C'est ce qu'elle a l'air de vouloir faire en introduction.
Ah, c'est une figure poétique massive, dans l'histoire littéraire, et en plus, effectivement, il y a quand même un côté, il tombe au bon moment, historiquement, et au moment de la Commune, et il est placé entre guillemets du bon côté, donc peut-être que c'est pour ça qu'il est plus intéressant que d'autres, parce que si on a des poètes qui parlent de la réalité, il y en a des tonnes.
T'en as des tonnes, alors bon, oui, c'est ça, bon, elle essaie de mettre la main sur un des héros de la poésie française, quand même. Alors, bon, après, effectivement, on peut être un peu toujours sceptique sur ce genre de projet-là, mais son idée, c'est d'essayer de montrer qu'il y a chez Rimbaud une espèce de poétique qui se prête particulièrement à ça, c'est-à-dire effectivement voilà, et qui se prête particulièrement à pour la compréhension de ce qui se passe, enfin de certains aspects de ce qui se passe au moment de la Commune de Paris. Voilà. Donc notamment sur elle fait pas de Rimbaud un théoricien politique, parce que là c'est bon courage à elle, et puis heureusement elle ne le fait pas. Donc il y a pas tentative là-dessus, mais c'est plutôt elle essaie de repérer en quelque sorte des thèmes, en réalité, des thématiques dans la poésie de Rimbaud qui finalement font écho ou résonnent avec certains aspects de la Commune de Paris. Alors, il y a elle choisit plusieurs thèmes. Je ne parlerai pas de tous parce que je ne suis pas convaincu par tous. Donc dans le premier chapitre, elle parle de la transformation de l'espace social. Elle insiste ensuite sur le thème du droit à la paresse, donc évidemment
effectivement, la Fargue,
qui est évidemment en référence à la Fargue. Elle essaie de montrer comment Rimbaud prend à sa manière cette thématique là. Ensuite, c'est les trois derniers chapitres dont je voudrais dire quand même quelques mots. C'est sur l'histoire spatiale. Alors ça, c'est typique. C'est typique du jargon. Ça se traduirait pour moi par géographie sociale, en fait, si tu veux. C'est-à-dire la géographie, en fait, tout simplement. L'histoire spatiale, c'est la géographie. La géographie authentique, intéressante. Mais disons que moi, j'aurais écrit ça. Je pense que j'aurais utilisé le terme de géographie. Bon. Ensuite, elle s'intéresse à la thématique de l'essaim. L'essaim. Alors bon, là, effectivement, ça s'y prête.
L'essaim. Lesquels?
L'essaim avec un L apostrophe, Michel.
D'accord.
L'essaim d'insectes.
Oui.
Voilà. Oui, bah écoute, c'est,
on
c'est,
se marre pas dans ce livre.
C'est comme ça. Oui. C'est pas franchement rigolo. C'est pas franchement rigolo. C'est pas franchement rigolo. Mais cela dit, bon.
Mais ça peut être intéressant quand même.
Mais ça peut être intéressant aussi parfois. C'est bon de ne pas rire parfois.
Donc les seins.
Dit-il en riant.
Dit-il en riant, voilà. Et le dernier, alors là, c'est plus stylistique. Le dernier chapitre, qui est celui le plus convaincant à mon avis, sur les rapports entre la manière dont Rimbaud utilise et dynamite finalement l'usage de la métaphore en français. De manière à en faire une espèce de slogan poétique. Voilà. Donc c'est voilà le type de thème qu'elle essaye d'aborder en essayant de voir comment ces thèmes-là peuvent faire écho à ce qui se passe au moment de la Commune de Paris. Alors, on fait peut-être une
pause musicale.
Ouais, une pause, puis après on rentrera dans le
vif du sujet.
Dans le vif du texte,
d'accord.
Ouais.
On va présenter le texte. Voilà. Donc voilà, vous allez écouter une nouvelle chanson. Je vous dirai laquelle après.
Un insurgé, son vrai nom c'est l'homme, qui n'est plus à la bête de somme, qui n'obéit qu'à à la raison, et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades, descendra avec les camarades, riant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau.
Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé.
En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Il revendique la machine, il ne veut plus courber les chines sous la vapeur en action. Puisque l'exploiteur à ma rude fait instrument de servitude, un outil de la rédemption.
Devant toi, misère sauvage, devant toi.
La classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin. Tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire, tant qu'un travailleur aura faim. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente combien de milliards tous les ans. C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans,
devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir pour sa deuxième partie. Nous vous parlons ce soir d'un livre de Christine Ross, donc Rimbaud, la Commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale, dans la collection Les Prairies Ordinaires. Et voilà, donc vous venez d'entendre un petit morceau de Mouloudji, un chanteur que, bon, personnellement, j'aime beaucoup. Et c'est L'Insurgé, qui est tiré aussi de l'album La Commune en chantant. Voilà, donc en première partie, on a présenté un peu le livre avec les quelques réserves qu'on pouvait avoir en particulier sur sa forme, enfin sur la façon dont il est écrit et sur la comment dire et sur la parfois peut-être même la pertinence du projet, faut voir. Mais on va voir dans une deuxième partie des choses un peu plus peut-être comment dire. Voilà, on est un peu moins dans le projet, on va peut-être un peu plus dans le dur. Voilà, Jean-Mathias.
Alors, ben, on y va. Donc, alors, peut-être pour aborder le premier thème qui m'a intéressé là dans les analyses de Christine Ross, c'est alors ce qu'elle appelle elle l'histoire spatiale, ce qu'on pourrait appeler la géographie au fond. Il y a elle fait toute une analyse du thème de l'espace dans la poésie de Rimbaud, en essayant de montrer finalement deux choses, si j'ai bien compris. D'une part qu'il y a chez Rimbaud tout un imaginaire qui tourne autour des conceptions de l'espace de son époque, qui est l'époque de la colonisation, qui est aussi l'époque de l'apparition de la géographie, et en particulier d'une géographie de cartographique. C'est celle qui est développée et impulsée par les sociétés de géographie à l'époque. Et du point de vue de la géographie universitaire, c'est les bases en fait de la géographie classique française posée par Vidal de Lablache comme science du paysage. Donc il y a d'une part ça, elle essaie de voir comment si Rimbaud en quelque sorte hérite et intègre ses conceptions de l'espace de la modernité, qui est un espace aussi du colonialisme, on va le voir, du colonialisme, de la technique. Et puis, d'autre part, comment Rimbaud intègre dans sa poésie une espèce d'intuition, on pourrait dire, d'intuition de l'espace social, c'est-à-dire de la place qu'occupent les uns et les autres dans la société de son temps. Alors, peut-être vous lire là-dessus deux petits textes sur ces questions-là. Premier texte, un texte très célèbre de Rimbaud qui s'appelle « Démocratie », donc avec un titre explicitement politique. Vous allez voir que le contenu l'est de manière un peu indirecte. Donc un premier texte qui s'appelle « Démocratie » et un deuxième qui est plus récent dans l'œuvre de Rimbaud qui s'appelle « À la musique ». Alors, « Démocratie », donc. « Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques. » Au pays poivré et détrempé, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Au revoir ici, n'importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce. Ignorant pour la science, roué pour le confort, la crevaison pour le monde qui va, c'est la vraie marche, en avant, route.
C'est relativement explicite, même. Enfin, il y a des choses qui sont claires.
Des choses qui sont claires. Deuxième texte, donc, qui est plus ancien dans l'œuvre de Rimbaud, qui s'appelle « À la musique », avec une première indication, « Place de la gare à Charleville. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis noirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin, le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont, officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes, fort sérieusement discutent les traités, puis prisent en argent et reprennent, en somme, épatant sur son banc les rondeurs de ses reins. Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son honin d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts, ricanent les voyous. Et rendu amoureux par le chant des trombones, très naïf et fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour enjoler les bonnes. Moi, je suis débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts, les alertes fillettes. Elles le savent bien et tournent en riant vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodée de mèches folles. Je suis sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas, je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas, et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres. Alors voilà ces deux textes-là. Le premier, donc, qui est plus allégorique, on va dire, sur une espèce de marche du progrès, du marche du drapeau de la modernité vers un espèce d'espace. Un espace qui est à la fois homogène, c'est-à-dire, voilà, puisque peu importe l'endroit où on se trouve, c'est au revoir ici, n'importe où, chaque endroit de l'espace se vaut, en quelque sorte. Et puis, il y a cette idée d'une espèce de monde qui va être justement considéré comme une espèce de terre à exploiter, hein, aussi bien au sens industriel que militaire. Il y a beaucoup d'autres textes de Rimbaud où cette perception de l'espace, cette conception de l'espace apparaît. Et l'intérêt de ce que raconte Christine Ross, c'est de montrer que ce qui peut paraître comme une espèce de conception très symbolique ou très un peu spéculative de l'espace, hein, qu'on aurait comme ça, qui serait sorti tout droit de l'imagination de Rimbaud, en fait, et si on la met en rapport avec les textes de l'époque sur justement l'essor de la géographie, c'est quelque chose de beaucoup plus compréhensible et de beaucoup plus banal que ça n'en a l'air lorsqu'on le lit dans les textes de Rimbaud aujourd'hui. Il y a des extraits justement des programmes de certaines sociétés de géographie de l'époque qui sont assez édifiants. Il faut que je vous retrouve ça. Où elle explique comment, finalement, l'essor des sociétés de géographie, il est explicitement commercial et stratégique, hein, avec un certain nombre de figures qu'on va retrouver dans la poésie de Rimbaud, comme la figure de l'explorateur, puis plus tard, comme par hasard, du commerçant. Hein, vous savez que Rimbaud a fini, justement, on en parlait, par faire du commerce d'un certain style à la fin de sa vie. Alors voilà, un extrait, par exemple, c'est page 142, où elle cite un des objectifs que se donnent les sociétés de géographie, qui sont en plein essor à l'époque. Le but que se proposent les sociétés de géographie consiste à favoriser les explorations des pays inconnus et encore peu visités, pour en retirer les produits du sol, voilà, on y vient, pour y porter les objets de notre industrie et pour y faire pénétrer en même temps les idées morales qui élèveront le niveau intellectuel de race relativement inférieure jusqu'à nos jours. Mais pour atteindre ce but, il faut que la jeunesse ait le goût des voyages et une connaissance exacte des sciences géographiques. Ce dernier point est indispensable. Elle continue en disant donc que l'explorateur géographe, hein, indique un autre bulletin, est celui qui sacrifie sa vie pour donner, je cite, un monde à la science, une colonie à son pays.
J'aime beaucoup, c'est toujours le mélange d'idées morales et d'idées commerciales.
Tout à fait.
Elles sont jamais séparées et c'est formidable parce que, enfin bon, on sait très très bien lesquelles sont les plus importantes.
Alors, donc elle dit que toute cette littérature-là, en fait, elle est contemporaine finalement de la poésie de Rimbaud. Explique ensuite plus loin, en 1881, la revue de géographie affirme fièrement que son travail a facilité l'intervention française à Tunis. Intervention militaire. Les sociétés de géographie offrent des prix pour des réalisations de la fantasmagorie mondiale, relevant en grande partie du même imaginaire de la ligne droite que les transformations opérées une décennie plus tôt par le baron Haussmann. Le nouveau Paris, ouvert au capital financier, une ville au trafic fluide, aux grandes artères intérieures et aux voies principales audacieuses. Et alors, elle cite un certain nombre comme ça de prix qui ont été décernés à l'époque par des sociétés de géographie. Un prix spécial récompense le voyageur qui ira de l'Algérie au Sénégal en passant par Tombouctou. Référence au rêve d'un chemin de fer transsaharien qui unirait les deux grandes colonies françaises, l'Algérie et le Sénégal. Au cours des années 1870, on pousse même l'extravagance jusqu'à étudier et planifier la création d'une mer au cœur du Sahara. Et donc, le commentaire de Christine Ross, rapproché de tous ces fantasmes publics, les images des illuminations de Rimbaud perdent beaucoup de l'obscurité ou du surréalisme idiosyncrasique qu'on leur prête presque machinalement. Alors, elle fait des liens aussi, évidemment, avec l'imaginaire du voyage et de l'exploration tel qu'on le trouve à l'époque dans l'œuvre de Jules Verne aussi, avec le fameux Le Tour du Monde en 80 jours. Et du coup, il me semble effectivement intéressant, c'est intéressant la manière dont elle met en parallèle, en quelque sorte, cette espèce d'imaginaire de l'espace colonial comme un espace à exploiter, où on va pouvoir aller droit au but, voilà, pour quadriller aussi bien militairement qu'industriellement. Et il y a d'une part, chez Rimbaud, une espèce de compréhension très aiguë de ça, et en même temps, il s'emploie lui aussi à faire exploser de ça de l'intérieur, en quelque sorte, en montrant, en faisant une espèce d'appel à une barbarie qui est finalement au cœur, en quelque sorte, de ce projet, voilà, de colonisation, d'éducation, d'émancipation des races inférieures, etc. Il y a toute une série de textes qu'elle met en avant aussi de Rimbaud, où il se revendique du nègre par opposition aux blancs, etc. Les blancs débarquent avec le canon avec les différents sens que ça peut avoir, bien évidemment. Et Rimbaud, lui, se place du côté de ceux qui font exploser le canon, précisément, ou de ceux qui l'ignorent, tout simplement. Donc il y a ce premier point. Alors ensuite, le texte que j'avais lu à la musique, là, à Charleville. Alors elle en fait une analyse. C'est
Charleville que tu connais bien.
Charleville que je connais bien. Je connais très bien la place de la gare. Donc j'ai une pensée émue pour tous les carolos mancéliens, voilà, que j'ai pu connaître. Un salut à eux. Place de la Gare à Charleville. Et alors, son interprétation est attirée par justement cette indication qui est juste sous le titre. Elle dit que c'est assez rare dans les poèmes de Rimbaud. Et ce qu'elle propose à faire après, c'est d'en faire une espèce de critique géographique, en fait, de ce poème. Et elle montre comment finalement Alors bon, je relis pas le texte, hein, mais vous l'avez en tête. Elle montre comment finalement Rimbaud essaye de d'avoir une espèce de regard où il y a les premiers rangs, il y a l'orchestre, puis les premiers rangs, puis les seconds rangs, puis après il y a une espèce d'espace oblique, hein, c'est celui sur lequel se situe Rimbaud lui-même et aussi les piou-piou, en fait tous ceux qui sont en marge finalement, hein, de l'espace social hiérarchisé et ordonné classique qui se met en scène, voilà, dans le public du concert. Hein. Ça commence comme ça, c'est la deuxième partie du texte. Hein. Le long des gazons verts, ricanent les voyous et rendu amoureux par le chant des trombones, très naïf et fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour en jeter des bonnes. Moi, je suis débraillé comme un étudiant. Elle insiste sur, voilà, le long des gazons verts. C'est-à-dire que c'est une espèce d'analyse spatiale qu'elle fait du poème. Hein. On a effectivement le cœur...
De toute façon, il y a les places... Tout à fait. Sociales qui sont décrites du type là sont les.
Exactement.
Etc. Mmh. etc. Ça fait penser à la sociologie, une forme de sociologie poétique.
Tout à fait. Et avec cette idée-là, évidemment, plus on est vers les premiers rangs, plus effectivement l'espace et plus les places sont maîtrées aussi, maîtrées, chiffrées. Hein. Il y a le notaire qui pend à ses breloques à chiffres, etc. Mmh. Et il y a cette espèce de ligne de fuite en quelque sorte. Hein. Le long des gazons verts, c'est aussi voilà le point de fuite dans le poème et sur la place de Charleville elle-même. Et c'est finalement cette espèce de ligne de fuite là hein, qui va sur laquelle se situe Rimbaud et la poésie de Rimbaud d'après elle. Alors voilà, c'est ce type de rapprochement qu'elle opère. Je veux pas détailler davantage. C'est pour vous donner une idée du type d'analyse effectivement qui est avancée là-dessus sur la place de l'espace. Alors peut-être trouver encore deux trois des textes de Rimbaud lui-même sur pour illustrer cela. Il y a le... Voilà, il y a la fin aussi de ce texte qui est assez explicite là, sur ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, et qui s'achève sur une métaphore qu'elle cite dans son texte, page 138. Voilà, c'est le siècle d'enfer, et les poteaux télégraphiques vont orner, lire au champ de fer tes omoplates magnifiques. Surtout rime une version sur le mal des pommes de terre, et pour la composition de poèmes pleins de mystères, qu'on doive lire de Tréguier, à Paramaribo, rachète des tomes de Monsieur Figuier illustrés chez Monsieur Hachette. Monsieur Figuier est un de ceux qui a vulgarisé la géographie à l'époque. Et donc elle essaie de montrer comment ces thèmes-là sont assez récurrents finalement dans les poèmes de Rimbaud, avec finalement pour avoir la dimension politique hein, de son analyse, ce qu'elle essaie de montrer, si j'ai bien compris aussi, c'est que finalement Rimbaud est fidèle à une géographie qui n'est pas celle de l'université française qui se met en place à l'époque, c'est-à-dire celle de Vidal de la Blache, qui définit la géographie comme science du paysage, un paysage qu'on pourrait décrire en quelque sorte de l'extérieur, comme une espèce de milieu naturel, qui est donc susceptible d'être exploité, quadrillé, approprié, quantifié, etc. Donc ça, c'est pas cette géographie-là, évidemment, que Rimbaud va explorer. Par contre, il y a une autre école géographique en France, qui est antérieure, et qui est celle d'Élisée Reclus, qui se trouvait évidemment... un militant anarchiste
célèbre
et bien connu. Et
sans parler de Kropotkine, avait aussi
sans parler de Kropotkine, qui avait également aussi fait de la géographie. Et il y a un point intéressant dans ce... Alors, il y a une citation intéressante de Reclus de ce point de vue-là. Alors, Reclus est antérieur hein, vis-à-vis de la Blache. C'est vraiment le fondateur de la discipline géographique par excellence. Mais d'après Christine Ross, il y a une espèce de perte, en quelque sorte, du sens géographique après Reclus. Et Reclus, d'ailleurs, voit tous les bulletins des sociétés géographiques, là, dont je citais des extraits tout à l'heure, avec un air parfaitement narquois et des commentaires complètement atterrés, en fait, par rapport à ça. Et alors, elle cite quelque chose, une petite formule de Reclus qui est... Bon, assez général, mais finalement assez complète, si je pense, où il explique finalement les différents paramètres qui sont à l'œuvre dans la construction d'un paysage du point de vue du géographe. Il y a trois paramètres pertinents que le géographe doit avoir en tête. La lutte des classes, la recherche de l'équilibre et la décision souveraine de l'individu. Tels sont les trois ordres de fait que nous révèle l'étude de la géographie sociale. Il reclut. Et au fond, elle dit que la poésie de Rimbaud, elle suit ce programme-là. Point de vue poétique, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de voir dans l'espace la lutte des classes, la recherche de l'équilibre et la décision souveraine de l'individu. Et la manière dont tout ça, évidemment, peut s'agencer. Alors, évidemment, c'est des considérations très générales, mais il me semble que... Enfin, c'est pas un hasard, en fait, ce trépied-là. J'ai reclus et je pense que ça gagnerait à être effectivement précisé, développé et analysé. Lutte des classes, recherche de l'équilibre et décision souveraine de l'individu.
Voilà. Oui, c'est un programme.
C'est un programme. On va peut-être faire une pause musicale, puis on passera à la suite.
liberté. Fiché, éclaté, matraqué, façonnière vie camouflée. Solide gardien de l'abri, payé armé pour nous tuer. Assassine, l'état dans la poche, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche, je te juge, l'état contre moi. Fasciste. Paris m'a dit quotidien, je trouve où tu perds. Terre en meurtre à chaque instant. Trop de détails assassins. Fragilité, liberté. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Fasciste. Révolution, résistance. Paris m'a dit quotidien. La vie zombie régulée. Musée blindé de l'abri. La ville résiste, terroriste. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Fasciste. Révolution, résistance. Paris m'a dit quotidien. La vie zombie régulée. Musée blindé de l'abri. La ville résiste, terroriste. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Fasciste.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie. Vous venez d'entendre un morceau de Metal Urbain, un groupe punk français mythique. Et c'était le morceau Paris Maquis, voilà, donc qui se termine sur cette interpellation formidable, fasciste. Voilà, c'est Jeudi Noir et aujourd'hui nous vous parlons d'un livre de Christine Ross, une universitaire américaine dont on avait déjà chroniqué le livre sur mai 68, paru aux éditions Agone. Et aujourd'hui nous vous parlons, enfin Jean-Mathias vous parle du livre édité dans la collection déguisée des Prairies Ordinaires, du livre de Christine Ross qui s'intitule Rimbaud, la Commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale. Tout à l'heure, on a vu deux, trois choses sur justement cette idée de géographie sociale, enfin, de géographie humaine, qui était, retranscrit un peu pompeusement par histoire spatiale. Mais je vois un peu les motifs pour lesquels on peut faire ça. Ensuite, alors de quoi est-ce que tu voulais nous parler donc pour cette dernière partie de l'émission, Jean-Mathias ?
Alors rapidement peut-être faire le lien entre ce que j'ai dit à partir du livre de Christine Ross là précédemment sur l'imaginaire de l'espace chez Rimbaud et puis la Commune de Paris quand même, parce le lien ne saute pas forcément aux yeux. Bon, et d'ailleurs il faut dire les choses, il saute pas forcément aux yeux non plus à la suite des analyses de Christine Ross. Peut-être juste lire
peut-être que ce qui apparaît c'est que la poésie de Rimbaud a une dimension politique
qui est traînette. dimension mondiale ou cosmopolitique. Oui. Cosmopolitique, au fond, voilà, oui. C'est ça l'idée. Hein. C'est une espèce d'une cosmopolitique dans la poésie de Rimbaud, et qui est effectivement quelque chose qui est porté par les communards, qui se situent eux-mêmes sur cette espèce de ligne de fuite, en quelque sorte, hein, de l'espace à la fois social et géographique, tel qu'il commence à se mettre en place et à être conceptualisé, et à se mettre, de l'ordre des catégories publiques à ce moment-là, on va dire. Alors peut-être rapidement un texte de Rimbaud connu, Le Champ de guerre parisien, qui est une espèce de, qui pour le coup est une ode à la commune de Paris, là, explicite, hein, et dans lequel justement il essaye, Rimbaud, de marier, hein, à la fois des considérations sur la géographie parisienne, la géographie de l'insurrection et de la contre-insurrection en l'occurrence, et puis la place des communards là-dedans et leur rapport à l'événement, à la fête et à l'espace en même temps. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui sont en parallèle, on va dire. Alors bon, je lis le texte. Champ de guerre parisien, le printemps est évident car, du cœur des propriétés vertes, le vol de Thiers et de Picard tient ses splendeurs grandes ouvertes. Oh mais, quel délirant Cunu ! Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières, écoutez donc les bienvenus semer les choses printanières. Ils ont chaco, sabre et tam-tam, non la vieille boîte à bougies et des yoles qui n'ont jam-jam, fendent le lac aux eaux rougies. Plus que jamais nous bambochons quand arrivent sur nos tanières crouler les jaunes cabochons, dans des aubes particulières. Thiers et Picard sont des Eros, des enleveurs d'héliotropes. Au pétrole, ils font des coraux. Voici annetonner leur trope. Ils sont familiers du grand truc, et, couchés dans les glaïeuls, Favre fait son sillement aqueduc et ses reniflements à poivre. La grand ville a le pavé chaud, malgré vos douches de pétrole, et décidément il nous faut vous secouer dans votre rôle. Et les ruraux, qui se prélassent dans de longs accroupissements, entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissement. Donc ça, c'est un texte qui est fait sur l'émeute en tant que telle, enfin sur l'émeute, sur l'insurrection de la commune. Alors bon, on ne rentre pas dans les détails, il faudra regarder ça d'assez près. Mais il y a toutes ces thématiques qui ont été abordées, c'est-à-dire à la fois une géographie de l'insurrection, du retour de Thiers et puis de ses troupes et des ministres de Thiers, hein, dont les noms sont cités là. Et puis, cette espèce de ligne de fuite sur laquelle se situent les communards, avec ce thème de la bamboche qui revient à plusieurs reprises. La bamboche, c'est la fête dans le présent, en quelque sorte, hein, cette espèce d'ivresse de l'insurrection pour le moment, avec aussi cette espèce de points dans lesquels il est question de douches de pétrole qui reviennent à les aqueducs également, tout ça qui sont des marques, en quelque sorte, de la domination technique, justement de l'espace lié à la colonisation, hein, et qui apparaissent ici sans qu'il y ait de référent direct sur la géographie parisienne, mais qui sont plus une espèce de référent un peu imaginaire, hein, qui vont avec ça, et le dernier quatrain sur les ruraux, alors les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements. Donc là vous avez le pays réel, comme disent d'autres.
Le pays réel qui regarde et qui ne rejoint pas.
Qui ne rejoint pas et qui surtout applaudit aux écrasements et aux fusillades, hein, oui, bien entendu. Donc voilà, ça appelle pas plus de commentaires, mais donc, un peu pour suggérer le type de lecture proposé par Ross sur à partir de ces thématiques de l'espace. Alors le deuxième point auquel je voulais venir, et puis qui est couplé avec le troisième, c'est celui de le motif de l'essaim. L'essaim, donc E2SAIM, puisque là, il y avait une ambiguïté au départ. L'essaim, alors qui sert à Christine Ross, si j'ai bien compris, à comprendre la manière dont l'identité, dont le moi, comme on dit parfois un peu pompeusement, qui apparaît dans la poésie de Rimbaud, a tendance à se dissoudre sous la forme d'une espèce d'essaim de sensations de ce type-là. Et alors en même temps, il y a une espèce de frontière qui est plus très claire, hein, entre justement les perceptions sensorielles de l'enfant, notamment de l'enfant Rimbaud quand il se met en scène lui-même dans certains poèmes, de l'enfant Rimbaud ou de celui qui lui ressemble étrangement. Donc comme si l'identité de cet enfant-là avait tendance à se dissoudre comme ça dans des espèces une espèce de pointillisme de sensations qui rappelle une espèce d'essaim comme ça sensoriel, et en même temps une frontière pas claire entre ça et puis des essaims bien réels, c'est-à-dire des grouillements d'insectes, des bourdonnements, des thématiques de ce type-là qui sont également récurrentes dans beaucoup de poèmes. Alors il y a deux textes de Rimbaud qui mettent ça en avant. C'est d'après elle donc les poètes de 7 ans très connus, et puis les chercheuses de Pou également très connues. Et alors, pour expliquer en quoi ça prépare la suite et en quoi ça peut avoir un lien avec la commune, ce type d'analyse-là, si j'ai bien compris, c'est pour elle une manière de montrer comment l'individu peut devenir, peut lui-même devenir foule. Et il y a cette thématique-là dans la commune de Paris, telle que elle la lit chez Rimbaud, c'est-à-dire la manière dont l'individu va devenir foule. Et ce qu'elle va montrer par la suite, c'est qu'il y a des traductions dans l'écriture de Rimbaud, de cela. Et c'est-à-dire que Rimbaud écrit aussi de manière... Enfin, le texte de Rimbaud est construit comme une foule. C'est ça qu'elle va essayer de montrer. C'est-à-dire comme quelque chose qui n'a pas un ordre grammatical ou logique clair et hiérarchisé, mais plutôt quelque chose comme une accumulation de vagues, en même temps qui pointent dans une certaine direction et qui sont sensibles à certains appels ou à certains signifiants. Et c'est d'où la thématique du slogan sur laquelle elle va terminer, pour essayer de montrer comment Rimbaud essaye en quelque sorte de construire une poétique du slogan. Voilà le lien.
Par rapport à l'essaim, en gros, Rimbaud sera un auteur révolutionnaire parce que justement il abandonne une espèce de position d'auteur souverain et unifié qui va décider du sens des choses.
Oui.
Et plutôt il fait exploser justement ce
dans
sens.
Dans son écriture, tout
dans
à
son
fait.
Écriture. Mmh.
Il fait exploser les hiérarchies stylistiques et l'utilisation habituelle des tropes de la langue française, pour essayer d'avoir une écriture foule, si on peut dire ça comme ça. L'expression n'est pas drôle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a ça, la traduction dans l'écriture, et puis ça va de pair avec une espèce de dissolution aussi de l'identité souveraine sur elle-même, en quelque sorte. C'est ça l'idée, hein, le moi essaim, ou les espèces d'identité essaim comme ça. C'est cette idée-là aussi, c'est l'individu qui devient lui-même foule, qui devient collection, en quelque sorte. Alors ça ne veut pas dire qu'il se disloque, hein, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté centrale. C'est une espèce de fédéralisme, des sensations en quelque sorte.
L'identité individuelle.
Si j'ai bien compris, c'est le fil qu'elle essaie de suivre.
Voilà. Ouais, c'est assez démoniaque tout ça. Hein.
C'est assez démoniaque.
Je suis légion, comme disait l'autre.
Tout à fait. Oui, tu peux avoir des ambiguïtés là-dedans. Alors peut-être rapidement lire les extraits qu'elle met en avant sur ces deux textes, là, les poètes de sept ans. Bon, le texte est très connu. Hein. Mais donc là, c'est les extraits qui mettent en avant ces dimensions d'essaim, de grouillement, de bourdonnement. Donc, extrait des poètes de 7 ans. Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver s'illunait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puants la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Ici, on voit bien qu'il y a une espèce de gradient, là, quand il formule ça, il écoutait grouiller les galeux espaliers, donc il y a une espèce de mouvement entre les insectes qui sont dans les arbres au fond de ce jardin-là, et puis d'un coup, le zoom sur les enfants d'ouvriers qui sont les autres, hein, par rapport à cette famille, la famille bourgeoise du personnage, extrêmement ordonnée, puritaine, etc. Et donc cette espèce de glissement, donc enfin un imaginaire, voilà, on ne sait plus exactement s'il est dans le fantasme, dans l'imagination, si c'est lui-même qui grouille, si c'est les insectes qu'il a sous les yeux, ou si c'est les enfants, qui apparaissent sortant du mur comme le prolétaire à la fois comme un danger et une promesse, d'une vie un petit peu libérée de tout ça. Alors ensuite,
Sur le slogan.
Sur le slogan, peut-être, oui.
Passe peut-être au slogan, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Et
le côté. Parce que justement, a priori, le slogan, c'est ce qui est le plus opposé, finalement, à la littérature.
Absolument.
C'est-à-dire, la littérature qui défait habituellement les idées toutes faites, les slogans, des choses comme ça. Et si elle dit que. Alors moi, je n'ai pas lu le bouquin, mais si elle dit que Rimbaud, balance des slogans ou sloganise, je ne sais pas.
son idée, c'est pas qu'il balance des slogans, c'est qu'en fait, il fait un usage de la. Alors Rimbaud, vous l'avez vu, on a cité un certain nombre de textes.
Excuse-moi de t'interrompre encore, mais c'est vrai que, par exemple, ce qui a été retenu de Rimbaud, c'est aussi des choses qui ont été utilisées comme des slogans.
Absolument. Alors, changer la vie, je vais être un autre, etc.
C'est ça.
Bien sûr. Donc évidemment, et c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard, mais sa lecture, elle va un peu plus loin que ça, me semble-t-il, parce que ce qu'elle veut dire, elle, c'est qu'au fond, l'usage que Rimbaud fait des métaphores dans sa poésie est un usage complètement à part, en fait, dans la poésie française, qui n'a rien à voir avec celui qu'en font, par exemple, Mallarmé, justement, cette espèce de le contrepoint qu'elle a en tête. Et alors, de quoi elle part? Elle part au fond d'une remarque de Sartre dans le Saint-Genest, où elle explique, elle rappelle que Sartre, il distingue en fait deux types d'imagination. L'imagination de gauche et l'imagination de droite, ce qui est pratique, parce que comme ça,
ça correspond aux émissions du cerveau.
Et alors, deux imaginations qui correspondent à deux usages différents de la métaphore. Il dit, d'une part, il y a un usage de la métaphore qui est un usage explosif, généreux et centrifuge. C'est ce qu'il attribue à Rimbaud, évidemment. Mmh. Et puis, un usage des métaphores qui serait rétractile, pauvre, et celui qu'emploierait Mallarmé, Baudelaire ou Genet lui-même. Alors, elle cite Sartre. Il y a dans la poésie moderne deux types d'unification, l'une expansive et l'autre rétractile. La première tendance, qui est celle de Rimbaud, soumet par la force la diversité naturelle à symboliser en unité explosive. Voir en l'aube un peuple de colombes, comme le fait Rimbaud, c'est faire sauter le matin comme une poudrière, dit Sartre. Alors ensuite, elle continue, ça c'est Ross qui écrit, Baudelaire et Mallarmé postulent un ordre ontothéologique, Mazette, entre des objets qui en réalité n'en ont pas. Ils condensent et assimilent des éléments épars. La seule unité dynamique chez Rimbaud, elle a trait à la combustion. Sa métaphore explose et s'éparpille aux quatre vents. On peut reformuler cette distinction à partir de l'interprétation défendue au chapitre précédent. Bon, là je passe parce que c'est des choses qui sont pas... qui sont pas si intéressantes, mais il y a cette idée selon laquelle voilà le quand Rimbaud fait des métaphores, hein, il met ensemble voilà des éléments voilà qui surprenants, ça c'est le principe de la métaphore, hein, une comparaison qui surprend, et en même temps c'est des éléments qui sont destinés immédiatement en quelque sorte à se séparer, voilà, et l'écriture et la poésie de Rimbaud, elle serait dans l'énergie au moment où ces éléments qui sont rassemblés se reséparent en quelque sorte parce qu'ils sont pas pensables ensemble en réalité, donc c'est ça la métaphore de gauche, comme on dit d'après Sartre.
Oui, moi ça me rappelle Kropotkin qui, dans certaines heures, disait la chimie est votre ami, quoi. Ou...
Oui, il y a quelque chose à cet endroit-là, ouais, ouais, sans doute qu'on peut on peut aller là-dessus. Et alors, son idée, c'est d'essayer de comprendre finalement pourquoi Rimbaud fait cet usage-là de la métaphore, bien sûr. Ce qu'elle met, donc on est toujours dans rappelez-vous, hein, son fil, c'est d'essayer de montrer que finalement, tout ça va aboutir à une écriture de la poétique qui finalement rédige en foule, donc qui met en avant, donc elle met ça en parallèle avec l'importance chez Rimbaud de la parataxe dans de nombreux textes, c'est-à-dire la manière alors la parataxe c'est quoi? C'est une écriture qui juxtapose, hein, des éléments de phrase ou des injonctions ou des expressions sans expliciter de lien logique. De liens grammaticaux ou explicatifs entre les différentes parties du texte. Et il y a de nombreux textes, effectivement, de Rimbaud qui sont construits comme ça. Par exemple, un texte très connu qui s'appelle Solde, hein, et qui commence, que nous, dans chaque, bon, je ne vais pas lire ici parce qu'on n'a plus trop le temps, mais qui commence à chaque fois par à vendre, à vendre, à vendre, et en fait suit ensuite une énumération un peu étrange, un peu un inventaire à la Prévert, on pourrait dire, hein, mais sans qu'il y ait de lien apparent clair entre toutes ces parties du poème. Donc, importance de la parataxe chez Rimbaud, opposée bien évidemment à l'écriture d'un Mallarmé qui, lui, insiste sur l'hypotaxe, c'est-à-dire au contraire sur la structure des phrases, la hiérarchie, les liens logiques, les sur lesquels, les à propos, liens logiques et liens grammaticaux. Hein. Et donc il y a là, en quelque sorte, voilà, deux types d'écriture, deux types de présentation de la phrase, qui correspondent finalement aussi à une certaine conception de la politique plus générale, hein, d'après elle.
Alors, bon, d'après elle, parce que Mallarmé était lu d'une autre manière, par exemple, par Rancière, ces temps-ci. Plus dans un côté, justement, anarcho-révolutionnaire qu'autre chose, mais...
Sans doute avec, mais reste à savoir si c'est complètement convaincant. C'est vrai que les études de Rancière sont intéressantes. Il y a aussi des textes effectivement de Rancière et de Badiou sur Rimbaud, hein, qu'il faudra aller voir. Ouais. Donc c'est peut-être que l'opposition qu'elle fait est peut-être moins convaincante que ce qu'elle souhaiterait.
Et un des soucis avec les poètes obscurs, c'est qu'on peut y mettre parfois un peu ce qu'on veut. Mais...
Absolument. Ouais. Et donc alors elle explique à la fin, elle fait un parallèle entre l'écriture donc du poème foule en quelque sorte chez Rimbaud et puis les quatre règles pour définir la foule définie par Canetti. Donc elle dit, comme la foule dans la première règle de Canetti, le poème en prose n'a pas de frontières naturelles. Il veut s'étendre. Voilà. En outre, au sein de la foule, l'égalité prévaut. Ces éléments constitutifs, comme les propositions dans le poème phrase, sont organisés de manière parataxique, je viens d'en dire un mot. En troisième lieu, la foule, selon Canetti, elle aime la densité, et les foules les plus denses sont celles qui croissent le plus vite. Donc vous avez, elle cite ensuite un certain nombre de textes. Enfin, dernière règle, la foule va quelque part. Elle a un but. On pourrait citer les dernières phrases de nombreux poèmes en prose où l'impression de chute brutale, la simplicité absolue, la conclusion lapidaire font l'effet d'une bombe. C'est là où on retrouve le slogan et ton ami qu'est la chimie. Elle cite dans Enfance, ce ne peut être que la fin du monde en avançant. Par exemple, Enfance 4. Ou encore, voici le temps des assassins. Chute de matinée d'ivresse. Un souffle disperse les limites du foyer. Chute de nocturne vulgaire. Il y a enfin, quand on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. Enfant 3. Et l'idée, c'est que, c'est ici, si vous voulez, qu'elle pointe quelque chose qui serait une espèce de, voilà, de chute sous forme de slogan. Pourquoi il y a effectivement cette propension de la poésie de Rimbaud à être retenue et à marquer comme ça par des chutes qui ont des formes de slogans, parce que précisément dans son écriture, il y aurait une manière de refuser les hiérarchies grammaticales, stylistiques, métriques de la langue française, et une manière de construire effectivement ces poèmes sous forme comme ça, par vague en quelque sorte, on pourrait dire, par vague ou par vague de foule, qui seront polarisées comme ça par des chutes en slogans, on va dire. Et c'est évidemment là qu'elle voit un rapport entre le type d'expérience poétique auquel invitent les textes de Rimbaud et le type d'expérience politique, sensible, affective, etc., qu'ont pu vivre les communards au moment de cet événement-là, dont elle souligne, alors évidemment c'est une lecture assez libertaire, assez romantique finalement de l'événement, qui vaut ce qu'elle vaut en termes historiques, mais elle souligne bien sûr que d'après elle et d'après une certaine lecture de la Commune de Paris, le but de la Commune de Paris, c'est la Commune elle-même, c'est-à-dire que toutes les analyses qui ensuite ont fait un échec politique ou un échec militaire, etc., sont finalement à côté de la plaque. Et que ce qui compte, c'est que la Commune de Paris ait été, au moment où elle s'est déroulée, finalement quelque chose comme sa propre finalité. Pas finalité simplement en termes de fête ou de transgression ou de carnaval ponctuel, mais effectivement une espèce de finalité à la fois politique et poétique, pourrait-on dire. Voilà. Donc, c'est un petit peu le type d'analyse ou le type de choses que vous pourrez trouver dans ce livre. Ça vaut la peine d'être lu. Ça vaut la peine d'attendre un peu, c'est-à-dire que les premiers chapitres sont les moins convaincants, les derniers le sont plus. Donc voilà, Rimbaud, la Commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale dans la collection Les Prairies Ordinaires par Christine Ross.
Donc c'était Jeudi Noir, on va laisser l'antenne donc à nos camarades donc de Entre Chien et Loup, et d'après ce que j'ai pu comprendre, on va passer les Communards. Voilà, donc les Communards, Tomorrow, donc un bon petit morceau qui fleure le passé, pas si lointain. À la prochaine.